Alors, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, Ariane Bayle et moi, de vous présenter aujourd'hui cette anthologie consacrée à la vérole et au vérolé dont Ariane a été le grand maître d'œuvre. Cette présentation, je le rappelle, a lieu dans le cadre du Mois Montaigne, un Mois Montaigne qui m'a été confié et que j'ai voulu dédier au rapport de notre illustre mais dolent bordelais avec la santé et plus généralement à la question du corps sain ou malade à la Renaissance. Alors, vous connaissez sans doute l'importance que Montaigne accorde à l'expérience ancrée dans le ressenti du corps propre et dans un essai consacré à ce qu'il appelle l'institution des enfants, l'éducation des enfants, Montaigne se moque du décalage qui existe entre la vie d'un côté, le savoir livresque et les leçons de morale de l'autre. Je le cite. « On nous apprend à vivre quand la vie est passée. Cent écoliers ont pris la vérole avant que d'être arrivés à leur leçon d'Aristote de la tempérance. » Et Montaigne reviendra ironiquement sur la valeur de l'expérience dans l'essai conclusif du dernier livre des essais, dans l'essai justement intitulé « De l'expérience », cette fois pour faire la satire des médecins et se moquer des limites de la médecine. Je le cite encore. « Ainsi, Platon avait raison de dire que pour être vrai médecin, il serait nécessaire que celui qui l'entreprendrait eût passé par toutes les maladies qu'il veut guérir et par tous les accidents et circonstances de quoi il doit juger. C'est raison qu'ils prennent la vérole, s'ils la veulent savoir penser. Vraiment, je m'en fierais à celui-là. » Et donc, ici, ce soir, avec vous, on va essayer de penser, avec EN, la vérole, mais évidemment sans l'attraper. Penser la vérole, c'est d'ailleurs exploiter l'orthographe indécise du moyen français, cette langue encore flottante, mouvante qu'utilise Montaigne, une langue où penser, écrit avec AN, peut endosser un double sens à la fois cognitif et médical. Je cite encore Montaigne, « Si nous ne commençons de bonne heure à nous penser, quand aurons-nous pourvu à tant de plaies et à tant de maux ? Si avons-nous une très douce médecine que la philosophie ? Car des autres, on n'en sent le plaisir qu'après la guérison, cette-ci plaît et guérit ensemble. » Alors, Montaigne, qui malgré ses préjugés contre la médecine, est un grand lecteur d'ouvrages médicaux, je tiens à le souligner, nous invite ainsi à réfléchir au rapport entre médecine et philosophie, mais aussi, plus largement, à la culture du XVIe siècle, comme à un moment où le partage disciplinaire des styles et des savoirs ne s'est pas encore opéré. Et c'est d'ailleurs cette attention à la porosité des discours qui nous a conduites, Ariane et moi, à travailler à plusieurs reprises ensemble sur divers projets.
Oui, on a eu des habitudes de travail assez longues avec Dominique. Et donc, alors elle enseigne à Bâle, comme vous le savez. Moi, j'enseigne la littérature comparée à l'Université de Lyon. Et voilà, quand j'ai eu l'idée de ce projet d'anthologie, j'ai immédiatement pensé à solliciter Dominique ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire sur laquelle je vais revenir dans un instant. Dominique, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien, plus dans le micro, voilà, qui connaît très bien l'œuvre de Montaigne. Moi, je venais plutôt, disons, de travaux sur Rabelais. Et Rabelais, comme vous le savez, les vérolés, c'est pour lui un sujet très important. Souvent, même quand on ne connaît pas grand-chose à l'histoire de cette maladie au début de l'époque moderne, on sait, on a entendu parler généralement des vérolés très précieux, des buveurs très illustres et vérolés très précieux, qu'interpelle Alcofribas Nazier dans le prologue de Gargantua dès 1534. Et moi qui ai fait donc une thèse qui portait sur les figures de bonimenteur et notamment sur Alcofribas Nazier, qui est une figure de bonimenteur littéraire, je m'interrogeais sur la récurrence de cette figure, qui est toujours traitée un peu rapidement dans les notes de bas de page, allusion comique au mal français, mais on n'en dit pas grand-chose, ou alors une note très très érudite pour nous dire quels étaient les traitements à l'époque de la maladie. Mais fondamentalement, la signification qu'avait cette provocation, qui consiste quand même à proposer au lecteur de s'identifier à des malades atteints d'une maladie sexuellement transmissible et potentiellement mortelle à l'époque, ça me paraissait extrêmement subversif. Et je me disais qu'il y avait vraiment un fil à tirer, parce que quand on travaille sur les littératures comiques, on voit que ce thème revient très souvent, alors traité évidemment comme un sujet comique, mais c'était pas seulement ça. Hein. Le rire, vous le savez, c'est souvent une réaction de triomphe sur l'angoisse, enfin une manière d'essayer d'apprivoiser l'angoisse. Et chez Rabelais, qui est médecin aussi, qui a exercé à l'Hôtel Dieu, à Lyon, notamment à peu près dans les mêmes années où il écrivait Pantagruel et Gargantua, il m'a semblé qu'il y avait une interaction très forte entre le savoir médical, le souci des patients aussi, parce que ce sont toujours dans ces prologues vraiment une manière de prendre soin des malades qui est thématisée. Hein, il s'agit de les soigner dans le prologue de Pantagruel, ou d'inventer une communauté de malades qui transcenderait le sentiment enfin l'opprobre, la stigmatisation, qui chercherait une consolation dans la lecture des livres. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le point de départ, assez ancien maintenant, d'un projet qui me semblait, la maladie me semblait devoir être prise au sérieux. Donc j'ai eu envie d'enquêter sur ce que pouvait représenter cette maladie pour Rabelais, cet écrivain médecin, mais aussi pour ses contemporains, et avec l'idée que derrière l'inconvenance, il y avait quelque chose vraiment d'une inquiétude beaucoup plus profonde de toute une époque. C'est une maladie qui marque le siècle. Il y a un historien, historiographe, disons, de la fin du XVIe siècle, qui a une œuvre très importante, qui s'appelle Louis Leroy, qui n'hésite pas, ça m'a semblé tout à fait emblématique aussi, à la fin du siècle, à faire de cette maladie qui est nouvelle en Europe au XVIe siècle. Elle est perçue comme nouvelle, en tout cas. Il en fait vraiment un marqueur de son temps. Il dit, voilà, quelles sont les grandes nouveautés de notre époque ? Et on a toujours la même énumération, vous savez, la boussole qui a permis les grandes découvertes, l'imprimerie, oui, l'artillerie, imprimerie et artillerie, l'une dans un sens a des vertus, l'autre on sait son pouvoir destructeur, et il ajoute la vérole et le schisme religieux, voilà, du côté des catastrophes. Mais faire d'une maladie un marqueur de la conscience historique qu'on a, hein, voilà, de son époque, ça me semblait très, très singulier. Alors, on a commencé à travailler sur ce projet avec une perspective très historienne. Évidemment, c'est aussi une thématique qui, pour des gens qui ne sont pas forcément spécialistes du XVIe siècle, comme nous le sommes, c'est un sujet qui entre en résonance avec des préoccupations plus contemporaines. Hein, l'épidémie de VIH, on s'en souvient tous, enfin, des ravages qu'elle a causés, qu'elle continue de causer. C'est une maladie qui reste mortelle. Et il y a beaucoup de parallèles possibles entre l'histoire de la syphilis et l'histoire du sida. Il y a d'ailleurs un historien, Mirko Grmek, qui a écrit à ce sujet. Voilà. Donc, c'était ça le point de départ. Rire dévérolé pour tenir quelque chose à distance, peut-être. C'était l'intuition première. Mais, en même temps, voilà, essayer de voir quels sont les sentiments que provoquait cette maladie, pas seulement chez les auteurs littéraires, disons, mais aussi chez les médecins. Alors, quelques mots sur, disons, le savoir objectif qu'on peut avoir sur cette maladie. Ce qu'on appelait la grande vérole au XVIe siècle, c'est, on va le voir dans un instant, un quasi-équivalent de la maladie qu'on appelle la syphilis, maladie sexuellement transmissible, qui est vraiment pandémique en Europe au XVIe siècle, dont les premiers cas ont été observés et décrits en Italie à la toute fin du XVe siècle. La première description qu'on ait conservée, c'est 1595. Et c'est tout ça dans le contexte des guerres d'Italie, au moment où les Français s'aventurent dans le sud de l'Italie, où Charles VIII veut conquérir le royaume de Naples. Il prend Naples, les soldats espagnols, les troupes espagnoles de Ferdinand s'opposent au roi de France, font le siège de Naples, et c'est visiblement là, en tout cas c'est ce que tous les historiens de l'époque, quelques années après, racontent, que les soldats français contractent cette maladie qui ensuite est diffusée dans l'ensemble de l'armée par l'intermédiaire vraisemblablement de prostituées qui sont travaillent dans les deux camps, aussi bien pour les Espagnols que pour les Français. Et dans leur remontée vers la France, remontée dans des conditions catastrophiques, les soldats français contaminent un certain nombre de gens. Et ce sont des soldats italiens qui, décrivant des symptômes d'une maladie qui ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissaient, parlent du mal francese. Les Italiens disent ce sont les Français, c'est le mal des Français. Voilà. Alors, l'appellation latine plus savante, ça va être morbus gallicus. Et vous le savez que les Français, eux, préfèrent dire que c'est la maladie qu'on a attrapée à Naples. Ils appellent la maladie le mal napolitain. Mais Dominique redira un mot de cela tout à l'heure. C'est toujours la maladie de l'autre, plus ou moins. Le tableau clinique, il est très complexe. Alors, c'est une maladie qui se manifestait d'abord par une sorte d'explosion, l'apparition de pustules très nombreuses sur le corps, et notamment sur les parties génitales. C'est le fameux chancre syphilitique qu'on ne décrivait pas de manière très précise à l'époque. Hein. Puis des ulcères. Le tableau qui est donné, c'est vraiment, on a l'impression que c'est Job sur son tas de fumier, hein, qui est décrit, ulcères purulents sur tout le corps, des douleurs extrêmes, notamment dans les articulations, des douleurs nocturnes. Et ce qui est peut-être plus étonnant pour nous, c'est la description d'une maladie qui conduisait à la mort très rapidement à l'époque. Ensuite, il semble que dans les années, les décennies qui ont suivi, la fin donc du 15e siècle, on a l'impression que la maladie s'acclimate, hein, qu'elle est mieux tolérée. La maladie n'est pas encore décrite comme elle le sera, évidemment, au XIXe siècle, en fonction de trois stades qui sont bien décrits par un médecin qui s'appelle Philippe Ricord en 1838, dans un traité de maladie vénérienne. J'ai oublié un symptôme qui est très frappant, qui participe de la constitution d'un portrait quasi très stéréotypé qu'on a trouvé dans beaucoup de textes. L'alopécie, la perte des cheveux, qui fait que la maladie peut être nommée pelade, hein, comme vous le voyez dans la gravure qui illustre un traité anonyme italien, les Lode della pelata, les louanges de la pelade. C'est très ironique, évidemment. Et puis, le cartilage du nez qui s'abîme et qui tombe. Donc, des gens qui n'ont plus de nez. C'est donc des visages parfaitement effrayants. L'hypothèse d'une origine américaine de la maladie, elle est assez vite formulée. Origine américaine, il faut que je parle plus dans le micro, d'accord. Hypothèse d'une origine américaine rapidement formulée par les médecins italiens. C'est l'hypothèse qui est d'ailleurs encore dominante aujourd'hui, même si elle est contestée par une partie de la communauté scientifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'hypothèse américaine? C'est l'idée que les soldats espagnols engagés dans le siège de Naples, et qui ont sans doute transmis cette maladie, sont, pour certains, ont été partie prenante dans les expéditions de Christophe Colomb. Et ce serait Christophe Colomb qui, arrivant sur l'île d'Hispaniola, et c'est avec lui ses soldats, ayant un commerce sexuel avec des femmes amérindiennes, hein, qui supportaient plutôt mieux la maladie, qui aurait ramené le tréponème pâle. J'ai oublié de nommer le nom de la bactérie qui est ici incriminée. C'est un nom qu'on donne évidemment beaucoup plus tard, quand la théorie du germe est connue. Et ce serait via les soldats de Christophe Colomb, les navigateurs, que la maladie serait arrivée en Europe. J'entre pas dans les débats, il y a des hypothèses qui contestent cette version, mais on pourra en parler si vous voulez. J'ai nommé le tréponème pâle. Petite précision, on a su soigner véritablement la syphilis qu'à partir des antibiotiques, hein, et qui se sont... qui ont été utilisés massivement à partir des années 1940. Mais avant, c'était des traitements très très lourds et pas très efficaces, à base de mercure. Le mercure qui empoisonne, hein, très largement le corps, hein, qui n'empêchait évidemment pas du tout la transmission. Aujourd'hui, on sait de surcroît que c'est une infection en pleine recrudescence, hein, qui est très souvent associée à d'autres maladies sexuellement transmissibles. Pour notre démarche, j'ai commencé à contacter des amis, des collègues qui sont devenus des amis, historiens de la médecine, que j'avais rencontrés à Genève dans un groupe de travail auquel participait Dominique. Donc très vite, ça a été un groupe constitué de spécialistes de l'histoire de la littérature, de spécialistes des textes médicaux, je pense à Concetta Penuto, qui nous a fait rencontrer d'autres historiens, notamment un spécialiste de l'histoire de cette maladie qui s'appelle Ion Arrizabalaga, qui est catalan, qui travaille dans une équipe de recherche à Barcelone. Et puis d'autres collègues, vous savez, c'est une sorte de cooptation, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis ceux qui avaient du temps à consacrer à ce projet se sont investis, mais on a travaillé de manière très empirique, assez lente. On a mis plus de 6 ans, me semble-t-il, entre nos premières réunions et la publication du livre, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, comme vous en doutez, à l'université. Et puis c'est un livre qui a quand même l'ambition de parler de la maladie à une échelle européenne. Donc il y a eu un très gros travail de traduction de textes latins, Brigitte Gauvin, Concetta Penuto essentiellement s'en sont chargés, mais il y a aussi des textes traduits de l'espagnol, de l'anglais pour beaucoup, et puis il y avait déjà des traductions disponibles pour certains textes en portugais au départ. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai parlé de l'italien, oui. Bon, enfin voilà, il y a un gros travail de traduction. On a, dans cette anthologie, on s'est arrêté à un corpus de 100 textes. Ça nous paraissait un bon chiffre. Ils sont tous présentés très brièvement, vous verrez, dans 5 à 10 lignes qui contextualisent, qui situent le texte, qui présentent son auteur. Pour ce qui est de la paracritique, on a cherché une sorte de position intermédiaire par rapport à ce que sont les habitudes des universitaires. Les notes ne cherchent pas l'érudition à tout prix. Ce sont des notes assez succinctes qui concernent essentiellement le lexique, parce que ce n'est pas très facile, toujours de lire ces textes, pour les textes français, en tout cas du XVIe siècle, et puis des notes qui apportent des précisions historiques. Et ces textes sont répartis en 12 chapitres, qui présentent autant d'enjeux de la maladie, enjeux littéraires, scientifiques, économiques, politiques. Donc on vise quand même une anthropologie de la maladie de manière plus large. Chaque chapitre fait, indépendamment des petites présentations pour chaque texte, chaque chapitre fait l'objet d'une introduction prise en charge par un des contributeurs. Et Dominique en a pris un certain nombre en charge pour montrer, en fait, problématiser la question, montrer les différentes facettes du problème. Voilà. Et on a eu d'assez bons retours dans la presse nationale sur cet ouvrage, ce qui n'était pas la moindre des satisfactions, parce que pour les travaux universitaires, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc ce soir, on a choisi de donner un éclairage à certaines de ces questions en choisissant un certain point, on ne peut pas tout aborder, puis on va passer aussi à la lecture de certains extraits avant de dialoguer avec vous. Dominique, est-ce que tu nous parlerais d'abord des enjeux linguistiques concernant cette maladie ?
Oui, enjeux linguistiques et scientifiques, car les deux aspects sont étroitement liés. Les deux premiers chapitres de l'anthologie sont concentrés sur la nomination de la maladie, puisqu'il n'y a pas de connaissance sans donner de nom, et sur l'identification des symptômes. Alors, comment appeler une maladie nouvelle pour laquelle on n'a pas encore de vocabulaire ? Alors, on est tous familiers du nom de syphilis. Alors, effectivement, le nom de syphilis apparaît dès 1530 sous la plume d'un médecin, Fracastor, qui, tout médecin qu'il est, était considéré par Ronsard comme l'équivalent moderne d'un Virgile, par l'élégance de sa prose latine. Mais ce nom de syphilis ne va s'imposer que tardivement, au tournant des 18e et 19e siècles. Alors, pourquoi syphilis d'ailleurs ? En fait, c'est le nom d'un berger dans le poème de Fracastor, puisque on trouve dans ce traité une fable mythologique qui met en scène l'impiété d'un berger qui sera puni par cette maladie. Il nous semble important de souligner qu'il serait trompeur et anachronique d'employer le mot syphilis pour parler de cette maladie à la Renaissance, car les territoires de la Vérole, Vérole c'est le nom vraiment qui s'est imposé en France au XVIe siècle, ces territoires sont beaucoup plus vastes que ceux de la syphilis. On considère alors que ce mal est susceptible d'en générer d'autres ou qu'il se confond avec d'autres. La confusion notamment entre Vérole et blénorragie, la terrible chaude pisse, n'a d'ailleurs été dissipée qu'au XIXe siècle. Alors, pour ce qui est du mot Vérole, on se dispute un peu sur son étymologie. Il viendrait sans doute du latin varus, qui signifie pustule, ou de varius, varié, parce qu'en général, une pustule ne vient jamais seule. Et d'où aussi son usage pour désigner à la fois la petite et la grosse vérole. À côté de vérole, on trouve d'autres noms, aussi bien savants que vernaculaires, qui vont exciter les rivalités nationales. Ariane mentionnait le mal français, ou Morbus Gallicus, qui montre d'ailleurs, je suis désolée, à quel point la vérole apparaissait liée au peuple français, au point d'en être la maladie emblématique. Les auteurs français ne vont pas se laisser faire et ripostent avec le mal de Naples, le mal portugais, ou encore le mal espagnol. Notons la variante mouches espagnoles, Spanish fleas, selon l'anglais Peter Lowe, par le fait que les pustules se disséminent sur la peau comme autant de petites piqûres. Et comme l'explique un médecin qui s'appelle David de Planis-Campi, comme des joueurs de paume, ils se renvoient la vérole l'un à l'autre. Alors j'avoue qu'en tant qu'Helvète, je suis presque un peu déçue qu'on n'ait pas mentionné le mal des Suisses.
Non, mais c'était ce sens de l'hygiène.
C'était déjà le sens de l'hygiène, voilà.
Le fameux l'hygiène suisse.
Les symptômes qu'a décrit Ariane tout à l'heure motivent aussi de nombreux noms. Hein. Tu as parlé déjà de la pelade hein, la perte de cheveux et de poils. On parle aussi de SCORE, hein, SCO2RE, l'ordure. Grünpeck propose la mentulagra, de mentula, le sexe masculin, hein, puisque la sexualité était considérée comme une des causes principales de la contagion. On parle aussi de boubesse, pour renvoyer au bubon, qu'on appelle aussi poulain, car, explique un auteur, ceux qui sont marqués par ce mal, quand ils marchent les jambes écartées, on dirait qu'ils sont montés sur un poulain, mais donc pas sur un cheval. Il y a aussi tout un imaginaire géographique extrêmement ludique qui se déploie autour de la vérole. La vérole qui, évidemment, comme toute maladie contagieuse, se moque des frontières. Je mentionnerai le pays de Surie. La Surie est fréquentée par les vérolés. Pourquoi ? Parce que la sudation fait partie de la thérapeutique de choc pour ces malades. Et cette Surie va devenir, par un glissement de plume, la Syrie. Parce que, évidemment, la Syrie, ça permet de faire le lien avec tout cet imaginaire d'un Orient débauché. Et puis, en regardant ta chemise, j'ai encore envie de parler du mal serpentin.
J'ai peur.
Oui, absolument. C'est en honneur du mal serpentin.
C'est l'expression espagnole, mal serpentino.
Mal serpentino. Alors, Ariane va nous lire un extrait.
Moi, j'ai choisi, pour illustrer cette problématique du nom, voilà, de vous choisir un texte qui est une fiction, mais c'est un texte comique anonyme, dans un esprit très rabelaisien, qui cite Rabelais dans son prologue. Ce texte, on lui connaît plusieurs formes. Sa première forme, en 1539, c'est « Le triomphe de Dame Vérole ». Et le texte est réédité en 1540 à Paris, avec une sorte d'ajout. Un texte au titre énigmatique, ça s'appelle le pourpoint fermant à boutons. Alors, pourpoint, vous voyez, vêtements masculins, les boutons, on se demande un peu de ce qu'il en est. Et le texte se présente, pourpoint fermant à boutons, comme une sorte d'exercice de grammaire joyeuse où les noms de la maladie sont déclinés comme dans la déclinaison latine. Donc nominatif, après ils mettent pas le vocatif, nominatif, génitif, puis accusatif, datif, etc. Enfin, vous vous souvenez de vos déclinaisons. Et voilà ce qui est proposé par l'auteur anonyme pour la déclinaison du nominatif. Ça commence comme ça, et je vais vous lire une série de noms, donc possibles, rêvés, imaginés pour la maladie. Ikek-ok. La grosse vérole, la gale de Naples, le pourpoint à boutons, la brigandine clouée, la gaillardise, la mignonise, la pomperie, l'estringue, la véringue, la haringue, la ruade, la friscade, la penade, le jaffard, le jarou, les cirons en coque et le plat aux cerises, le mal inconnu, la happe lourde, la trahison, la fortune, la malencontre, la méchanceté, la forcerie, l'enchantement, la diablerie, la glu, la plège, le résol, le filet, le la coulant, le collier, la chausse-trappe, le mal du creux, le mal du fourcher, le mal de Niort, le mot joint, le mal du carrefour de Poitiers, le mal du trou qu'on ne peut clore, le mal des reins, le mal des rognons chargés, le mal du bas percé, le mal de la cassette océan, le mal du boisseau à mesurer les andouilles, le mal qui se porte, le mal punais, qui pue, le mal de prêter sans jamais rendre, le mal de Longret, le mal de Malrage, le mal de broche en cul, le mal de Champelu, le mal du gouffre, le mal privé, le mal sauvage, le mal de Maumisère, le mal de Maupertuis, le mal de Malientra, le mal du Clos Bruno, le mal des aveugles. Voilà, ça c'était juste le nominatif, mais vous imaginez pour le datif, ce qu'on donne, c'est à l'avenant. Voilà, donc ça c'était un exemple d'appropriation littéraire comique sur cette question du nom. Alors, autre point qui nous a paru très marquant sur l'ensemble de la période, c'est le traitement de la vérole dans un genre littéraire, qu'on peut appeler un genre épistémique, certains historiens le nomment ainsi, à la fois scientifique et littéraire, c'est le genre du récit de maladie. C'est vraiment un genre en plein essor, aussi bien dans les textes médicaux, restituer des récits de cas, hein, les publier des récits de cas au XVIe siècle, que dans des textes comme les nouvelles, hein, ou les romans, hein, où la maladie prend une place nouvelle dans la narration. Et plus particulièrement, ce qui est très frappant, c'est que paraissent, en termes de genre éditorial, au XVIe siècle, paraissent les premiers témoignages personnels sur l'expérience de la maladie. Montaigne, il parle de sa gravelle, il parle de sa maladie dans les essais, mais tous les essais ne parlent pas de cela, évidemment. C'est un point important, mais c'est en passant avec d'autres questions. Là, on peut dire qu'on a un certain nombre d'auteurs, plutôt au début du siècle, qui entendent parler de leur expérience, transmettre un savoir sur leur maladie parce qu'ils pensent en avoir échappé, et finalement proposer une forme de prophylactique. C'est le cas notamment d'Ulrich von Hutten. Ici, vous voyez la gravure qui orne la page de titre de la traduction française du texte d'Ulrich von Hutten. Traduction très rapide, le texte en allemand et en latin, pardon. C'est du latin, ça a été traduit en allemand de 1519. Là, c'est une traduction de 1520, me semble-t-il. Philippe Lenoir, ouais, l'édition est de 1520, présentant un malade dans sa chambre. On est vraiment centré sur l'individu, ici, un malade bien singularisé. Et Dominique va nous proposer une lecture d'un passage du texte de Hutton qui montre une forme d'autoscopie, hein, absolument terrifiante. La traduction de ce texte, on la doit à une de nos collègues, Brigitte Gauvin, qui a d'ailleurs publié l'ensemble du traité de Hutton sous le titre « La vérole et le remède du Gaillac » aux belles lettres en 2015, et elle faisait partie de notre équipe.
Alors, nous avons choisi un extrait où la description du malade, hein, cette autodescription, est centrée sur le pied gauche, hein, ce qui fait un peu du chevalier réformé Hutton, un nouvel Achille, mais qui se guérira, contrairement à Achille, avec le gaillac, hein, qui est un arbre exotique. Je vais expliquer à quel point j'ai été atteint. Tout d'abord, j'avais perdu l'usage de mon pied gauche, rongé par la maladie depuis plus de 8 ans, et au milieu de la jambe, là où il n'y a que très peu de chair sur le tibia, se trouvaient des plaies enflammées, boursouflées, infectées, source d'une terrible douleur, et de nature telle que, dès que l'une était guérie, une autre apparaissait aussitôt. Elles étaient en effet très nombreuses, répandues partout sur le corps, et même avec l'aide des médecins, il était impossible de les réduire à une seule. Par-dessus se trouvait une gomme, devenue si dure qu'on aurait cru de l'os, et c'était le siège d'une douleur lancinante qui ne connaissait pas de répit, immense et terrible. Et tout près, sur le talon droit, un abcès qui avait lui aussi la dureté de l'os, le plus ancien abcès d'une maladie qui s'était alors déclarée depuis peu. Les médecins eurent beau essayer de le percer en recourant au fer, au feu et à tous les caustiques, ils n'arrivèrent à rien. Cet abcès tantôt enflait violemment, me causant une extrême douleur. Tantôt s'arrêtait d'enfler et la douleur se calmait. Il me faisait moins mal quand j'approchais mon pied du feu, mais je ne supportais pas qu'il fût couvert de plusieurs épaisseurs de vêtements. Le pus s'en écoulait abondamment, d'une manière qui semblait absolument impossible à arrêter. Et toutes les fois que je m'appuyais sur ce pied, je ressentais une douleur insupportable. Donc voilà ce texte tout à fait saisissant, hein, où ces abcès ressemblent à une hydre, hein, à plusieurs têtes. On coupe une tête, il y en a d'autres qui apparaissent. Et ce qui est frappant dans ce texte, c'est cette description extrêmement précise des atteintes physiques et aussi du ressenti douloureux du patient. Pour l'auteur, il ne s'agit pas tant de susciter la pitié, que peut-être d'ailleurs vous avez ressenti, mais plutôt de convaincre tous les patients, même les plus atteints, que la guérison est possible grâce justement au fameux gaillac. Et un autre aspect tout à fait frappant du texte, c'est le caractère repoussant de cette maladie, avec des plaies qui suintent, des plaies infectées. caractère repoussant qui fait que bien des malades vont chercher à cacher les indices d'une maladie extrêmement stigmatisante socialement. Elle est perçue vraiment comme un péril social et elle suscite la peur du contact. Un autre syphilitique qui s'appelle Grünpeck et qui était aussi médecin va raconter qu'il dissimule à ses parents et amis son sort de syphilitique par peur justement de les effrayer.
Il y a une grande constance là dans les réactions à la maladie. Alors là, cette inquiétude devant l'aspect du corps des vérolés, elle a pour corréla une attitude qu'on a observée dans bien des textes, notamment dans des textes médicaux, qui consiste à chercher à traquer les signes de la maladie. Voilà, et des médecins en tout cas qui se mettent en scène dans leur production médicale, dans les récits qu'ils font de leur pratique. Alors, le bon médecin, c'est le médecin enquêteur, évidemment, déjà, qui va chercher à réfléchir sur l'origine de la maladie, à retracer la trajectoire de la maladie, évidemment, qui va enquêter sur les signes de la maladie, la sémiotique médicale, avec une focalisation, en l'occurrence, sur les parties dites honteuses, à l'époque. Enquête sur la recherche de nouveaux remèdes, le gaillac, dont il a été question, qui est un bois venu du Brésil, le mercure, dont on ne sait pas du tout doser, pas correctement en tout cas à l'époque. Et puis enquête sur les moyens de la transmission. Et ça, c'est vraiment dans les années, disons, 1520, 1530, les textes de cette période-là. C'est très intéressant de voir que les médecins s'interrogent sur la manière dont les patients ont contracté la maladie. Évidemment, la transmission vénérienne par le coït, elle est reconnue tout de suite, dès le début, dès les guerres d'Italie. Mais les médecins ont l'idée que certains patients qui, a priori, ne peuvent pas être supposés débauchés ou exposés à la maladie, auraient pu la contracter par un baiser, par la salive, par le fait de dormir dans une auberge, dans les mêmes draps. Bon, c'est toute la thématique des contacts impurs dont on sait bien, enfin, sur laquelle les anthropologues ont beaucoup travaillé, qui est réactivée ici. Alors, les deux principales voies de transmission avérées, c'est la transmission vénérienne et la transmission de la mère au fœtus. Et là, on voit que les femmes sont particulièrement ciblées. Certaines figures sociales, en tout cas, focalisent l'attention.
Et les personnes les plus exposées aux soupçons, donc bien sûr les femmes, qui sont presque toujours présentées comme contaminantes plutôt que contaminées. Et parmi elles, il y a évidemment les courtisanes et prostituées, mais aussi, ce qui est peut-être moins attendu, les sages-femmes et les nourrices. Ce qui va entraîner finalement une transmission en chaîne à partir de la naissance, transmission totalement destructrice pour la cellule familiale. Ainsi, de cette courtisane du faubourg Saint-Germain qui contamine la sage-femme qui l'assiste lors de son accouchement, sage-femme qui ensuite, je cite le texte du médecin, « engâta bien 35 ménages ». C'est-à-dire que les maris prennent la vérole de leurs femmes, les femmes transmettent la vérole à leurs enfants, et surtout, grande scène de ménage, parce que mari et femme s'accusent réciproquement de tromperie et de débauche. Tu me l'as refilé, non, c'est toi. Il y a d'ailleurs un auteur facétieux du XVIe siècle, Noël Dufail, qui joue avec cette idée de donner la maladie. On la donne pas forcément gratuitement. Donc on se bat pour savoir finalement qui est responsable de la première étape de la transmission.
Et alors, peut-être qu'on peut lire un extrait d'un texte de Louise Bourgeois et aller directement à cette étape. Louise Bourgeois, alors pour beaucoup d'entre nous, c'est d'abord une artiste plasticienne contemporaine, mais la fameuse Louise Bourgeois prend son nom. Elle l'emprunte à une sage-femme, en fait, du XVIe siècle.
Tu vas dire, Louise Bourgeois, on dit aussi Louise Boursier, 1563-1636. C'est une figure tout à fait exceptionnelle, une sage-femme qui se vante d'avoir opéré plus de 2000 accouchements. Et surtout, elle se présente elle-même comme la première femme d'art qui met la plume en main pour décrire sa pratique obstétricale et également pour la théoriser. Donc on voit en quoi cette œuvre est exceptionnelle parce que Louise Bourgeois opère une double rupture. D'abord, par rapport à la tradition féminine, hein, qui repose sur une transmission orale des connaissances, hein, un savoir empirique, et par rapport à une tradition masculine où on exclut traditionnellement les femmes du monde des lettres. Alors, elle va publier son premier livre d'observation en 1609, à un moment où elle connaît son apogée à la cour, puisque c'est après l'accouchement des 6 enfants de Catherine de Médicis. Et c'est un ouvrage qui va connaître des suites. Il y aura plusieurs volumes et aussi de nombreuses rééditions et traductions en anglais, latin, allemand, allemand. Alors... J'aimerais vous lire un extrait de ces observations tout à fait intéressant parce qu'il montre à quel point finalement le métier de sage-femme peut ressembler à une enquête policière. Alors pour situer le passage, en 1602, Marie de Médicis va donner naissance à Élisabeth qui est la sœur de Louis XIII. Et donc on doit recruter une nourrice pour allaiter l'enfant. Il y a un véritable concours. Et voilà ce qu'explique Louise Bourgeois. Ce fut une affaire qui me donna bien de la peine. Elle logea chez une de mes amies, cette nourrice qui va être recrutée, elle logea chez une de mes amies, laquelle s'employa de bon cœur pour elle. Elle me priait aussi d'y faire ce que je pourrais. Je voyais son enfant extrêmement menu, mais elle était appropriée à son avantage, de sorte que le art paraît le fagot.
C'est pas très facile oui, à expliquer. On a été obligé de mettre une note, mais l'enfant donc de cette nourrice candidate au recrutement, elle a déjà un enfant dont le vêtement, on peut supposer le vêtement de l'enfant, montre une enfant bien apprêtée, mais le hard dissimule le fagot. C'est l'idée que, en fait, ça dissimule en réalité une mauvaise santé. Voilà.
Alors voilà ce que découvre Louise Bourgeois. Donc, je fus un jour, comme j'avais de coutume, la voir, où j'entendis nommer cette nourrice du nom de son mari. Je me ressouvins que c'était le nom d'un jeune homme que mon mari avait traité de la vérole. Le mari de Louise Bourgeois était chirurgien, lequel avait voulu sortir sans attendre qu'il eût été guéri. J'en avais entendu parler, que jamais l'on ne le put empêcher de sortir, quelque chose que l'on lui put dire. Il dit à mon mari qu'il était guéri, qu'il se sentait bien et qu'il voulait prendre l'air et se fortifier pour se marier. Alors, je résume très rapidement la suite. Louise Bourgeois comprend par recoupement que la nourrice candidate est l'épouse d'un ancien patient de son mari qui est un vérolé, qui n'a pas été jusqu'au bout de la cure. Et du coup, elle est devant un dilemme. Doit-elle le dire ou ne pas le dire tout de suite au médecin de la reine ? Catastrophe, la nourrice suspecte est bel et bien retenue parmi plusieurs candidates à l'emploi. Et donc, je reprends la lecture. Alors, elle fut retenue et aussitôt on fit état de renvoyer toutes les autres. C'était l'heure du dîner. Je fis chercher monsieur Dulaurent, qui est médecin à la cour, lequel était allé dîner en compagnie. Comme je vis qu'il ne se trouvait point, et qu'il n'eût pas été à propos de le dire quand les autres nourrices eussent été renvoyées. Je priai mademoiselle de Servage, femme de chambre de la reine, de lui aller dire de ma part ce qu'elle fit, laquelle lui dit « Allez dire à la sage-femme qu'elle m'a aujourd'hui rendu un bon service, que si je l'eusse su d'une autre personne que d'elle, que je ne l'eusse jamais voulu voir, et que je lui en sais bon gré. » La reine le dit aussitôt au roi, lequel dit tout haut, que des nourrices venaient de loin pour le tromper devant tout le monde. Il envoya chercher M. Dulaurent et les autres médecins, lesquels me vinrent trouver pour savoir la vérité et comment je vérifierais cela. Je leur dis le tout, et que pour preuve, il y avait un valet de chambre de M. de Beaulieu, rusé, qui demeurant en notre logis, l'avait aidé à penser, qui en pourrait dire la vérité, et un autre qui était chirurgien à Auxerre, qui avait été en même temps chez nous. Comme cela fut vérifié, l'on fit une autre élection des nourrices. J'étais infiniment fâchée du mécontentement de cette femme-là, mais le service que je devais à leur majesté était tout autre chose. Donc, c'est un récit extrêmement intéressant parce que Il nous déporte vers une narration complètement hagiographique qui met en scène les époux bourgeois comme sauveurs du sang royal et pourfendeurs des impostures. Et on voit bien que dans cette histoire, il s'agit non pas de célébrer un acte thérapeutique, la guérison d'un vérolé, mais au contraire de mettre en valeur un engagement éthique et le dévoilement d'une vérité cachée. Et ça, c'est un aspect extrêmement important de la vérole, le fait qu'elle apparaît par excellence comme la maladie du non-su ou du non-dit. Et c'est pour cette raison qu'elle se prête particulièrement bien au développement d'intrigues narratives.
Oui. Alors, ces intrigues narratives, on va les retrouver. Là, vous voyez, il y a un récit qui est déjà... il y a une trame, disons, quasiment policière. Dans des textes de fiction, on va retrouver aussi cela dans des nouvelles tragiques, Bénigne de Poissonneau, par exemple, ou des nouvelles comiques. Il y a une nouvelle de Cervantes dans les nouvelles exemplaires intitulée La nouvelle du mariage trompeur, qui est très intéressante de ce point de vue-là, puisque le narrateur, le narrateur secondaire, le personnage principal qui raconte son histoire, est un malade qui raconte comment il a été trompé par une femme qui voulait l'épouser. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien dans les nouvelles tragiques que dans la littérature comique. Mais on pourrait peut-être, on a pris déjà pas mal de temps, se concentrer sur, disons plutôt, la production lyrique. Qui est très intéressante aussi, c'est ce qui est très frappant, c'est le très grand nombre de poèmes qui parlent de la maladie à mots couverts, très souvent, enfin quoique, mais en tout cas en recyclant très souvent des grands thèmes de la lyrique amoureuse, notamment le motif bien connu des infortunes de l'amant, mais dans un sens, j'allais dire, beaucoup plus concret que dans la poésie pétrarchiste, comme vous pouvez vous en douter. Et on voulait mettre l'accent dans cette rencontre sur ce point-là, sur cette tradition lyrique qui reprend bien des codes d'une tradition élégiaque, disons. Alors souvent des poèmes centrés sur le portrait d'un personnage qui parfois dit « je », un « je » lyrique, qui ne nomme pas forcément, qui souffre. On a vu ça dans des poèmes de Mani, par exemple. Ou bien à travers le thème assez fréquent aussi de la confidence à l'ami. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de voir cette mise en scène d'une solidarité masculine, d'hommes qui se soutiennent mutuellement face à la maladie, qui montrent de la compassion les uns pour les autres. Alors, cette solidarité masculine qui a pour corréla très souvent dans la littérature du XVIe siècle des déclarations assez misogynes, on s'en doute. On peut la trouver par exemple chez un poète comme François Haber, qui est un poète, alors qu'on dit marotique, pour le dire un peu rapidement, qu'il est très influencé par le style de Marot. C'est un poète de cour qui a travaillé à la cour de François Ier, puis d'Henri II. Et parmi ses très nombreuses productions très éclectiques, il y a un poème très singulier intitulé « Exclamation contre Dame Vérole ». Et dans ce poème, le poète, le locuteur en tout cas, apostrophe une maladie allégorisée, Dame Vérole. Cette allégorie, elle est en fait assez fréquente. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais parlé du triomphe de Dame Vérole, qu'on s'imagine soit comme une courtisane au pouvoir impérieux, soit comme c'est le cas chez Haber, comme une sorte d'affreuse mégère ou de sorcière qui l'interpelle, qui l'invective, en lui disant de rentrer dans sa grotte infernale. Mais bon, là, dans le passage que je vais vous lire, de l'exclamation contre Dame Vérole, le poète fait un tableau vraiment pathétique du corps de son ami, qui a énormément maigri, dont on peut compter les os pointus, dit-il, qui est accablé de tristesse. Tristesse qui peut être un terme qui peut renvoyer à l'idée de douleur, qui n'est pas toujours pris dans le sens de l'émotion, telle qu'on utilise le mot aujourd'hui. Et dans le passage, je vais lire vraiment un passage très, très court, voilà ce qu'il dit, et ce qui me paraît important, c'est le pouvoir qu'il cherche qu'il confie à la parole, et à la parole lyrique en l'occurrence. Donc, parlant de son ami, le « il », c'est son ami, il dit « Le regardant, il est pire que mort, comme celui qu'on tire des enfers. ou un captif qui au pied allait faire. Le pauvre ami n'a plus que la parole en me disant « Venge-moi de Vérole par tes écrits où j'ai ma confiance puisque mon corps elle a mis à outrance. » C'est-à-dire outrance, elle a plongé mon corps, elle a mis mon corps dans une souffrance excessive. « Ainsi me dit mon ami langoureux, jadis plaisant, courtois et amoureux, dont je ne puis, voyant cette nouvelle, d'un être enflammé à dire ton libelle. » Le « tu », c'est Vérole. En le disant, dépeindre tes couleurs, puisque tu es cause de ces malheurs. Suce donc ma plume, allume ta vigueur pour te venger de si grande rigueur. Bon, la plume remplace l'épée hein, dans une sorte de combat avec, contre la maladie ici. Et on voit bien que ouais, l'idéal héroïque, bah, il est évidemment pris en défaut hein, face à la puissance de la maladie. Mais voilà, la parole et la plume... cherche à reconquérir une force. Ça peut sembler dérisoire, mais c'est un thème qui a une grande importance. C'est pas seulement le pouvoir consolatoire hein, de la production lyrique face à la maladie, l'idée qu'il y aurait quand même une capacité à mobiliser son énergie, à ressaisir quelque chose d'une énergie perdue dans la diction lyrique. Alors, du côté du style élégiaque, voilà ce qu'on on a donné un extrait, mais il y a aussi évidemment, et ça fait bien partie du genre poétique, de la production poétique du XVIe siècle, vraiment il y a un très grand nombre de poèmes satiriques qui vont, comme vous vous en doutez, chercher à faire rire des pauvres malades, les stigmatiser ou jouer un peu sur la compassion. Aussi, bon, des poèmes souvent très explicitement très misogynes, qui font allusion aux défauts féminins, ou dépeignent le corps féminin comme un objet de dégoût. C'est pas toujours très agréable hein, à lire. Dans cette anthologie est très bien, mais il y a des passages particulièrement éprouvants. Il y a des poèmes qui visent particulièrement des puissants, dans tout le moment des polémiques religieuses, notamment. Une des cibles principales, ce sont les ecclésiastiques, le clergé romain, hein, que les protestants, enfin les réformés ne s'embarrassent pas de, voilà, aiment critiquer, ce clergé romain réputé et paillard. Donc la Vérole tient une bonne place dans les passes d'armes entre adversaires religieux. On pourrait donner des tas d'exemples, hein. On en a choisi un qui est assez drôle, c'est un poème parodique qui reprend une forme fixe, pour le coup, bien connu, qui subvertit la forme d'une prière. C'est ce qu'on peut appeler une prière subvertie. C'est un paternoster dans lequel s'invite la Vérole. Alors, on peut essayer, je ne sais pas, on va peut-être pas lire aussi longtemps que ce qu'on avait prévu, parce que sinon, on ne va pas pouvoir finir. Alors, attends, pour moi, je reprends notre texte, page 168. Oui, on va lire simplement les quatre premières strophes. Les prières subverties, c'est vraiment un genre hein, en soi qui a une histoire assez longue et au XVIe siècle c'est vraiment dans le contexte des, enfin c'est pas vrai spécialement pour ce texte, mais disons dans le contexte des guerres de religion au XVIIe siècle, toutes les polémiques autour des mazarinades, on trouve ce genre assez fréquemment. Alors ça aurait pu être une autre prière. Il y a des paternosters subvertis, des Ave Maria subvertis. Là, en l'occurrence, ce poème s'intitule « La créance des vérouleux ». Vérouleux, c'est comme les vérolés, mais elle a un autre titre plus connu. Elle a souvent été éditée avec des variantes, pour titre « La patenôtre des vérolés ». Voilà. Je te propose de commencer la lecture et voilà, vous verrez que les clausules latines du paternoster sont insérées dans la phrase française.
Paternoster très glorieux, notre sauveur comme je crois, n'oublie pas les vérouleux qui dressent leur prière à toi.
Qui es in coelis, qui est aux cieux. Je dis le français,
oui, pardon,
qui est aux cieux.
Tu nous donnes de si grands maux que si nous ne nous amendons de nos péchés et nos défauts, faudra par force que ton nom,
sanctificetur, soit sanctifié.
Nos médecins n'y voient goutte et ne nous laissent un denier, et nous avons si forte goutte que presque nous fait renier.
Nomen tuum, ton nom.
J'ai essayé maintes médecins, autant que jamais je ne fisse, mais j'ai des ulcères sans fin, encore me doute que pis.
Adveniat, advienne.
Nous te dirons tout notre cas, Donne-nous tout ce que nous faut, non pas au ciel, mais ici-bas, et si garde très bien là-haut.
Regnum tuum, ton règne. On va peut-être s'arrêter là. Et la prière va jusqu'au amen final. Bon, ça c'était un exemple.
Mais
vas-y. Non, vas-y, va directement à l'autre tendance comique plus dure de la fin du XVIe siècle.
Oui, c'est-à-dire qu'à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, les choses changent. Hein, on ne va plus du tout rire de la même manière. Et cet humour gaulois qui pouvait associer la vérole à une certaine insouciance, hein, à une forme de jovialité, n'est plus tout à fait au goût du jour. On peut dire que le traitement de la vérole fait l'objet d'un traitement, la vérole fait l'objet d'un traitement beaucoup plus cru, plus dégradant aussi. Les auteurs cherchent même à choquer. On peut prendre en exemple Cigogne, qui propose le testament d'un vérolé. C'est un texte extrêmement obscène, où le jeu du poète va décrire la dégradation progressive de son corps, dont il offre la pourriture à ceux qui lui survivent. Un autre exemple qui est plus connu, c'est le fameux sonnet à Phyllis de Théophile de Viau. Hein, Phyllis, ça résonne évidemment avec syphilis. C'est un poème obscène, pornographique, qui se sert de la vérole, au fond, pour justifier la sodomie et sa revendication décomplexée. Je rappelle que c'est une pratique absolument contre nature, alors, et passible de prison. Alors, ce sonnet a été publié dans un recueil intitulé « Le Parnasse satirique » en 1622, et cette publication a vraiment mis le feu aux poudres, puisqu'il est à l'origine du procès qui a été intenté à Théophile de Viau pour libertinage. Il faut entendre le libertinage dans sa dimension philosophique, l'accusation d'athéisme qui est liée finalement au non-respect des normes chrétiennes. Et c'est ce qui vaudra d'ailleurs à Théophile de Viau une condamnation à mort. Alors, on va vous lire ce magnifique sonnet. Alors,
c'est un sonnet un peu gênant.
Alors, c'est un sonnet qui présente une particularité, c'est-à-dire qu'à l'époque, il a été publié en tronquant et censurant les mots obscènes grâce à la ponctuation. Hein, donc, vous avez l'initiale du mot et un point.
Ouais. C'est une typographie dite de pudeur. À la place de F, point de suspension, vous allez compléter. On va être obligé de compléter.
Bon. Donc Ariane va
non,
avoir.
C'est toi qui lis.
Oui, mais bon, c'est d'accord. Ariane qui va avoir la voix. Ça va être le retour du refoulé avec Ariane.
Vas-y.
Phyllis, tout est foutu. Je meurs de la vérole. Elle exerce sur moi sa dernière rigueur. Mon vie baisse la tête et n'a point de vigueur. Un ulcère puant a gâté ma parole. J'ai sué 30 jours, j'ai vomi de la colle. Jamais de si grands mots n'eurent tant de longueur. L'esprit le plus constant fut mort à ma langueur et mon affliction n'a rien qui la console. Mes amis les plus secrets ne m'osent approcher. Moi-même, en cet état, je ne m'ose toucher. Phyllis, le mal me vient de vous avoir foutu. Mon Dieu, je me repens d'avoir si mal vécu. Et si votre courroux à ce coup ne me tue, je fais vœu désormais de ne foutre qu'en cul.
Voilà. Bon, alors, je ne vais pas commenter les pratiques de Théophile, qui lui ont valu d'avoir son portrait brûlé en effigie. Hein, c'est extrêmement... Et puis d'être emprisonné. Il n'a jamais revendiqué la paternité de ce sonnet, mais il lui a été attribué très, très rapidement. Simple commentaire, vous avez été attentif peut-être à la lecture, à la rime, vérole et parole, à nouveau. Hein. Et on a déjà eu ce couple à la rime. Tout à l'heure, c'était dans le poème de Haber, où la parole était conçue comme consolante. Ici, vérole rime toujours avec parole, mais finalement, ni, on a l'impression que c'est la revendication d'une parole corrosive, malade, hein, d'une certaine manière. Les choses se sont inversées. Elle est comme contaminée et contaminante. Elle produit un effet sur le lecteur qui consiste à produire un malaise. Elle rime toujours avec parole, mais ni les douleurs physiques ni la honte morale ne semblent, cette fois-ci, pouvoir freiner la quête effrénée du plaisir. Voilà.
Alors on l'aura compris, la vérole est un objet d'intérêt, enfin on espère du moins vous l'avoir montré par nos paroles vérolées. La vérole sert d'ailleurs les intérêts de toute une profession, hein, puisqu'évidemment elle alimente, disons, la profession des médecins, des chirurgiens, et plus largement celle de ceux qu'on appelait alors les empiriques, hein, souvent moqués, stigmatisés, attaqués, parce qu'ils exploitent les peurs et la crédulité du profane. Autrement dit, les charlatans font le beurre, ou plutôt la colle, de cette maladie. Et nous avons d'ailleurs choisi d'intituler un des chapitres de l'anthologie « Économie de la maladie ». Il y a un pamphlet très intéressant qui a été publié en 1644, qui est dirigé contre le cardinal Richelieu. Le cardinal qui est mis en scène pour défendre de manière ignominieuse sa politique. Et voilà l'analogie qu'il convoque. « J'ai vu la fille d'un empirique à Paris qui fit présent de la vérole à quantité d'honnêtes gens pour donner de la pratique à son père qui la guérissait parfaitement. » Voilà, donc on se demande si la vérole fera vendre ce soir, hein, parce que ça profite aussi aux libraires, peut-être, qui nous accueillent.
Ils sont des gens beaucoup plus fiables que les empiriques et les charlatans de l'époque.
Mais ouais. L'ambivalence de ce dernier exemple, c'est que finalement, cet empirique sait soigner la vérole, hein, parce qu'il doit soigner sa fille pour que... C'est ce qu'il dit, hein, qu'il la guérissait parfaitement. Alors, voilà. On vous remercie beaucoup pour votre attention.